La force qui vous conduit, la sagesse qui vous éclaire vous sont données, avec l'énergie qui vous soutient et la paix qui vous affermit. De même que dans l'aridité du désert, il y a la fraîcheur des oasis, où l'on boit l'eau de la source. De même, dans le désert, où l'agitation de nos vies, il y a la célébration du culte, où ensemble, nous nous tournons vers la source de vie et d'amour qui est notre Dieu. Je vous invite à prier. Nous voici, éternel Dieu. Nous sommes venus pour te préparer un chemin en nos cœurs, en nos intelligences, en nos vies. Nous sommes venus pour faire de la place en nous à ta présence, à ta parole. Que ton esprit souffle, qu'il passe en nous et entre nous, et nous pourrons vivre. Amen. Nous nous levons pour chanter. Restons debout pour le temps de la louange avec le psaume 146 que Jérôme va dire.
Louez le Seigneur, que je loue le Seigneur. Je louerai le Seigneur tant que je vivrai. Je chanterai pour mon Dieu tant que j'existerai. Ne mettez pas votre confiance dans les nobles, dans des humains à qui n'appartient pas le salut. Leur souffle s'en va. Ils retournent à leur poussière, et le jour même, leurs intentions disparaissent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur, son Dieu, lui qui fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, lui qui garde la loyauté pour toujours. Il agit envers les opprimés selon l'équité. Il donne du pain aux affamés. Le Seigneur relâche les prisonniers. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse ceux qui sont courbés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur garde les immigrés. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il fait dévier la voie des méchants. Le Seigneur régnera toujours. Ton Dieu, Sion, de génération en génération. Louez le Seigneur.
Et nous poursuivons ce temps de louange avec un autre psaume, en chantant au psaume 24, « La terre au Seigneur appartient », nous chanterons les strophes 1, 2, 3 et 4.
Thank you.
Prenez place. Nous écouterons la volonté de Dieu pour nos vies avec quelques versets du livre du prophète Michée au chapitre 6. Avec quoi me présenterai-je devant le Seigneur? Avec quoi m'inclinerai-je devant le Dieu d'en haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des taurillons d'un an? Le Seigneur agréera-t-il des milliers de béliers, des dizaines de milliers de torrents d'huile? Donnerai-je mon premier-né pour ma transgression? Donnerai-je le fruit de mon ventre pour mon propre péché? Il t'a fait connaître, ô humain, ce qui est bon. Et qu'est-ce que le Seigneur réclame de toi, si ce n'est que tu agisses selon l'équité, que tu aimes la fidélité et que tu marches modestement avec ton Dieu? Amen. Nous nous recueillons dans la prière de conversion. Éternel notre Dieu, tu nous appelles à devenir lumière pour le monde. Ouvre nos yeux quand nous ne voyons plus son obscurité et sa confusion. Et pardonne-nous quand nous oublions ta lumière. Tu attends que nous parlions d'espoir à nos sœurs et à nos frères. Renouvelle nos cœurs quand la crainte et le découragement tarissent notre joie. Et pardonne-nous quand nous manquons de confiance les uns envers les autres. Tu promets et tu offres une généreuse hospitalité dans la grâce. Mais en nous demeurent des résistances, des peurs, des ressentiments qui nous rendent méfiants et exigeants envers autrui, qui nous rendent crispés sur nos certitudes. Accorde-nous un cœur ouvert et attentif et pardonne-nous notre lenteur et notre méfiance à croire et à aimer. Nous t'en prions, au nom de Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Frère. Amen.
Thank you.
vous invite à vous lever pour entendre l'annonce du pardon. Le Dieu de notre vie est au cœur de notre être, là où notre vie plonge en lui, là où nous touchons au fondement de notre être. Sa présence est en nous et elle nous environne. Il nous connaît par notre nom. Sa présence est bonté pour nous, ouverture de nous-mêmes à nous-mêmes et à autrui. Il nous fait aimer de son amour, espérer de son espérance. Il nous fait vivre de la vie éternelle. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique 242. Nous t'invoquons au Seigneur, le cantique 242. Avant de lire le texte des Écritures pour aujourd'hui, nous prions. Dieu fidèle, tu viens sans cesse à notre rencontre. Ne permets pas que nos vies s'endorment dans la routine. Par ton esprit, que ta parole réveille notre foi. Tiens-nous debout, en elle, par elle, vigilant à son écoute et dans le service des vivants. Amen. Je vous propose de lire aujourd'hui un des textes proposés à la méditation des Églises en ce dimanche, le texte de l'Évangile selon Marc, au chapitre 12, les versets 41. À 44. Marc 12, nous sommes tout près de la Passion. Jésus est entré à Jérusalem. Et À Jérusalem, il va souvent, il va dans le temple. S'étant assis en face du trésor, Jésus regardait comment la foule y lançait de la monnaie de bronze. Nombre de riches lançaient beaucoup. Vint aussi une pauvre veuve qui mit 2 leptes valant 1 quadrant. Alors il appela ses disciples et leur dit : Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a lancé plus que tous ceux qui ont lancé quelque chose dans le trésor. Car tous ont lancé de leur abondance, mais elle, elle a lancé de son manque tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Dans ce tout petit récit de 4 versets et 5 phrases, un même verbe revient 7 fois. Un verbe que j'ai traduit par « lancer ». Le verbe grec signifie aussi « jeter ». Les versions des Bibles et celles de la NBS ne donnent jamais à lire ainsi ce texte avec 7 fois le même verbe, que ce soit lancer ou jeter. Elles proposent ces traductions 1 ou 2 verbes. Et très souvent, en grande majorité, le verbe mettre, qui est un verbe qui sert à tout, qui n'engage pas à grand-chose, tellement il est employé à la place d'autres verbes plus précis. D'ailleurs, vous verrez bien tout à l'heure au moment de l'offrande si vous voulez mettre, poser, déposer, glisser, donner, jeter, lancer votre offrande dans l'aumônière. Mais l'usage intensif de se lancer ou jeter donne une surprenante résonance à ce texte. Et surtout en français. Parce qu'en français, le verbe jeter parle souvent de poubelle, où nous jetons ce que nous ne voulons pas garder, ce dont nous voulons nous débarrasser. Et si le jeter est un lancer, comme lorsqu'on lance un ballon à quelqu'un, eh bien le verbe lancer implique une énergie, une détermination et un objectif. Il s'agit donc dans ce récit d'un lancer d'argent dans le trésor du temple de Jérusalem. De l'argent parce qu'il s'agit de permettre l'entretien et le fonctionnement de ce vaste et somptueux bâtiment, un des plus beaux de l'Antiquité, paraît-il. Car le temple est indispensable à l'exercice de la foi dans le judaïsme ancien. Il est le lieu des sacrifices. Les sacrifices rythment aussi bien les grandes fêtes du calendrier juif que les grandes étapes de la vie des croyants. C'est dans ce temple que Jésus a renversé les tables des changeurs d'argent et les sièges des vendeurs d'animaux, en leur reprochant sans ménagement d'avoir fait de cette maison de prière une caverne de voleurs. Et c'est là, dans ce temple, que s'est engagée une série de controverses entre Jésus et les pharisiens, les prêtres, les scribes, les anciens, jusqu'à ce moment où Jésus voit la pauvre veuve lançant 2 petites pièces dans le trésor du temple. Et de ce qu'il observe, Jésus tire un enseignement pour ses disciples. Mais il semble que la conclusion soit absente, la conclusion de cet enseignement. En effet, Jésus ne dit pas « Le royaume de Dieu est comme le geste de la veuve ». Jésus ne dit pas non plus « Malheur aux riches qui ne donnent que de leur superflu ». Jésus ne dit pas « Faites comme la veuve et ne faites pas comme les riches ». Non, il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de jugement sur qui que ce soit. Alors qu'est-ce donc que ce récit va lancer dans l'esprit, l'intelligence ou la foi du lecteur? Certains pourraient trouver admirable le geste de la veuve qui ne garde rien pour elle. Cette pauvre veuve qui n'aura plus rien pour vivre après avoir lancé ses deux petites pièces. Quelle foi ! Quelle doit être sa foi pour qu'elle se dépouille ainsi de tout ? Qui n'aurait pas gardé ses deux dernières petites pièces ? Ou une seule, simplement pour manger ? Mais cependant, gardons-nous de faire de la veuve un modèle de piété ou de désintéressement. Jésus ne le fait pas. Il n'y a pas d'exaltation de la pauvreté dans ce récit, et si les évangiles mettent en garde contre le pouvoir idolâtre et corrupteur de l'argent, ils n'exhortent pas à se débarrasser de tous les biens. Certains peuvent s'y sentir appelés, comme une mise en pratique de leur foi, comme par exemple François d'Assise. Mais cela n'est en rien une loi, ni une obligation, ni une condition. Le salut ne passe pas par nos comportements, mais par la grâce seule, et c'est bien ce que Jésus annonce, proclame et vit. Alors quel sens est-il possible de comprendre au geste de la pauvre veuve ? Ces deux petites pièces ne pèsent pas lourd dans le budget général du Temple de Jérusalem. Au regard de la grandeur, de la splendeur de l'édifice, de son fonctionnement, elle ne les aurait pas mis, elle n'aurait pas manqué ces deux petites pièces. Et puis on pourrait même dire que ce don de ces deux sous, ce don à la fois dérisoire et extrême, ce don ne sert doublement à rien, parce que ce temple, si magnifique, si imposant, si bien décoré, va être totalement détruit. Tout disparaîtra. Jésus dit à un disciple admiratif, il n'en restera pas pierre sur pierre. Prophétie dans la droite ligne de celle des prophètes de la Bible hébraïque, devant l'orgueil, l'oppression, les injustices, dont aucun sacrifice ne peut effacer la malfaisance. C'est donc toute sa vie que la veuve lance dans le trésor du temple, dans le tronc des offrandes. Il ne lui reste plus rien après cela. C'est toute sa vie qu'elle lance dans ce qui signifie tellement pour elle, dans tout ce qui signifie tout pour elle, tout ce qui signifie tout pour elle, et un tout qui est plus important que sa vie même. C'est toute sa vie, sans restriction et sans mesure, qu'elle lance dans sa relation à Dieu, parce que sa foi relève de ce qui est vital comme l'air, peut-être plus que l'air, plus que l'eau, plus que le pain. Et pour la veuve, comme pour les fils et les filles d'Israël, la relation à Dieu dépend du temple de Jérusalem où sont effectués les sacrifices indispensables. Alors elle lance ces deux pièces. C'est peut-être un geste sans espoir, un geste de fin de vie, la fin de sa vie. Mais dans la foi et dans la fidélité, un geste de remise, d'abandon. Et si c'est la fin de sa vie, elle sait au nom de quoi. Au nom de qui ? Ou c'est peut-être un geste de protestation que personne ne verra à part Jésus. Une protestation de vie, une vie minuscule, mais une vie quand même, capable d'une décision de foi et de fidélité, capable de se donner sans rien garder. Et cette offrande minime qui compte pour rien, et qui pourtant est requise par l'économie de la religion, cette offrande minime représente paradoxalement tout le poids qui pèse sur les croyants. Et c'est bien cela le problème que Jésus voit et qu'il signale à ses disciples. La religion du temple est un système qui aggrave la pauvreté des pauvres en captant par l'organisation des sacrifices la possibilité de se tenir devant Dieu. Le système du temple met en péril les personnes pauvres en les obligeant à passer par des dépenses incontournables car il faut des sacrifices. Même au temple de Jérusalem, la vie devant Dieu passe par l'obligation de payer. Et la veuve y perd sa vie par fidélité. Et c'est comme une protestation de vie qui lui fait perdre sa vie. Et dans la foule, invisible parmi ceux qui lancent beaucoup plus de pièces qu'elle, la veuve achève publiquement et dans l'indifférence sa trajectoire de pauvreté et de solitude, de vie et de foi. C'est ce que Jésus fait voir à ses disciples, qu'il a déjà mis en garde précédemment contre les scribes qui dévorent les maisons des veuves. Jésus leur montre le scandale d'un système religieux, économique et politique qui exploite même les plus démunis, qui prend tout à ceux qui n'ont rien. Et ce tout, c'est bien plus que de l'argent. C'est de la reconnaissance. C'est une place, une voix entendue, des relations, la dignité. Mais qui voit les existences qui chutent, qui chavirent, qui disparaissent hors de vue, hors de connaissance, hors du monde? Qui voit, qui entend ces si menues protestations d'existence perdues dans les foules? Ce que Jésus voit et qu'il montre à ses disciples, c'est le scandale d'une existence sacrifiée. C'est le scandale de l'obligation du sacrifice supérieur à la valeur d'une existence humaine. Un sacrifice, une obligation qui ne se préoccupe pas d'une existence humaine au nom de Dieu. Mais de quel Dieu? C'est d'un autre Dieu dont Jésus témoigne. Il est le Christ du Dieu qui donne sans calcul et sans retour. Et un Dieu qui donne pourquoi? Pour la vie des vivants, pour sa création. Dieu qui ne demande rien en échange de ce qu'il donne, parce que ce qui transforme une existence, c'est de recevoir ce qu'il donne de confiance, de souffle, de grâce, de vie vivante. Mais certainement Jésus voit-il encore autre chose en observant la pauvre veuve. Il se voit lui-même. Il se reconnaît dans ce geste à la fois fou et déterminé, humble et délibéré, ce geste souverain d'une vie lancée, jetée, sans retenue, dans la confiance en Dieu, dans la foi et dans le monde, et quitte à en être retranchée. Le geste de la pauvre veuve, c'est un geste prophétique pour Jésus, un geste qui lui manifeste sa vocation. Et bientôt, c'est lui qui lancera complètement sa vie dans la confiance en Dieu, en la lançant dans le gouffre de la mort. Un dernier geste face à cette mort qui vient, face à ceux qui vont le sacrifier, lui, à leurs intérêts et à leur conception de Dieu et de la religion. Il lancera sa vie démunie de tout ce qui se marchande, démunie de toute assurance, cette vie pauvre de tout. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La pauvre veuve n'aurait-elle pas pu murmurer ce extrait du psaume 22 en lançant ses deux pièces dans le trésor du temple? Jésus reconnaît toute la vérité du don d'une vie dans la foi, dans la relation à Dieu. Il voit sa propre existence condensée dans ce geste si rapide et discret de la veuve. Lui qui a été envoyé dans le monde sur une parole, « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Lui qui a donné sa vie, qui l'a lancée dans le terreau de l'humanité afin que les humains cessent de croire que la grâce de Dieu se vend et s'achète, que sa confiance se gagne à coup de sacrifice. Lui qui va donner sa vie, qui la donne déjà, pour que les humains croient enfin que la justice, la compassion, l'amour et la bénédiction ne sont pas des conditions, mais des conséquences de la grâce donnée. Et nous, nous vivons du don de cette vie, lancée en notre humanité. Et dans cette vie toujours donnée, nous pouvons lancer la nôtre. Et nous vivrons. Et d'autres ainsi pourront vivre de grâce, seuls. Amen. De la confession de foi, je vous invite à vous lever pour entendre celle que Jérôme va nous dire.
Je crois que le monde est animé par ton esprit d'amour. Il me fait naître, il m'apprend à aimer, il me permet de m'émerveiller, qu'il me donne de créer à mon tour. Je crois que tu me libères sans cesse de mes aveuglements et de mes inerties pour que je devienne plus humain. Je crois que tu m'appelles à accueillir mes frères dans la paix du pardon demandé et reçu, offert et partagé. Je crois que ton esprit suscite toujours et partout cet élan et nous travaille sans cesse. Je crois qu'inlassablement, tu me proposes une vie qui abolit la mort et qu'il me faut en vivre de suite pour en vivre à jamais. Je crois que tu es source de toutes choses et que tu appelles le monde à tendre vers ton royaume. Par toi, je prends conscience de ma dignité humaine. À ton exemple, je veux m'ouvrir à l'amour, à la fidélité et à la miséricorde. Ainsi, je crois qu'avec toi, en toi, je ressuscite à la vraie vie.
Quelques annonces pour ce premier dimanche de novembre. D'abord, une annonce importante et urgente. Vous savez que dimanche prochain, c'est le repas du CASP organisé au foyer de l'âme, comme nous le faisons depuis longtemps. Et pour ce repas de dimanche prochain, nous manquons de bras. Nous manquons encore de personnes, nous manquons de deux personnes qui voudraient bien partager le repas, s'asseoir à table avec les invités. Et puis nous manquons de quatre paires de bras pour faire le service et pour débarrasser et ranger. Et puis nous aurions aussi besoin de cuiseurs de riz pour faire cuire le riz de ce repas. Alors, si vous avez un peu de temps, même si vous n'êtes pas disponible toute la journée, bien sûr, un peu le matin ou un peu l'après-midi ou le moment du repas, merci de me le signaler ou de le signaler à Dominique Jaulme, qui se charge de la coordination de ce repas, de préparer, de l'organisation. Donc, voilà, merci à vous, parce que là, nous sommes un tout petit peu ennuyés pour cette reprise du repas du Caspe, puisque depuis plus d'un an, nous n'avions pas pu le faire. Nous avions donné des paniers, des sacs, mais là, nous reprenons le repas et nous avons besoin d'aide. Alors, c'est un appel à l'aide que je lance ce matin. Vous dire aussi, pour la semaine prochaine, beaucoup d'activités, c'est la rentrée. Alors, cela commencera mardi le 9, avec la pause biblique organisée par, du point de vue pratique, par notre amie Nicole Gigliotti, qui donc pause biblique à partir de 12h30. C'est ça, Nicole? Voilà, 12h30, et cette pause biblique, dont le thème de toute l'année porte sur le livre des psaumes, sera animée par notre ami le pasteur Marco Fornerone et moi-même, et ce sera sur le thème de la louange, avec un psaume de louange, avec le psaume 103. Voilà, pour mardi à 12h30. Et ensuite, à 19h30, il y aura un conseil presbytéral dans la salle du deuxième étage. Mercredi 10, ce sera aussi un jour important, intéressant, passionnant, avec le Ciné-Club, avec la première étape d'une série que nous propose Didier You, avec la projection de films sur des thèmes de la Bible.
Bonjour, on m'entend bien, oui. Alors, pour le premier film sur le christianisme au cinéma, eh ben, on prend les fondamentaux, hein, l'Évangile selon saint Matthieu de Pasolini. J'ai eu l'idée de ce choix en lisant le livre de notre ami Denis Guénoun, qui s'appelle Matthieu, je vous recommande, où il étudie le personnage de Matthieu à travers l'œuvre de trois artistes, Le Caravage, Bach et Pasolini. Vous avez le temps de lire le livre si vous voulez vous préparer à cette projection. Bon, je vous raconte pas le pitch du film. Quelques détails pratiques. C'est à 18h30. Attention, parce qu'il y a eu une erreur dans l'amitié. C'est 18h30. Autre détail pratique, nous sommes dans les conditions du cinéma. C'est-à-dire qu'il faut un pass et il faut garder le masque pendant la projection. Le film fait 2h15. Jusqu'à présent, je choisissais des films plutôt pas trop longs pour terminer à des heures chrétiennes. Et là, ce sera... Ça viendra un peu plus tard, 18h30, 2h15, les incidents techniques, voilà, vous ne serez pas chez vous avant 21h, et en plus, on peut rester après le film pour en discuter, n'est-ce pas? Comme il n'est pas impossible que nous soyons plus nombreux que d'habitude, s'il y avait une ou deux paires de bras musclés pour arriver vers 18h et installer la salle, et m'aider à installer la salle, ce serait bien. Si vous êtes volontaire, vous pouvez me le dire tout à l'heure à la sortie. Voilà.
Merci Didier. Alors, après mardi, mercredi, le 11 novembre, ce sera quand même un jour avec la pause spirituelle, comme tous les jeudis. Oui, jeudi 11, à 12h30 à 13h30 dans le temple. Vendredi 12, en soirée, il y aura au temple une représentation de théâtre, la pièce dont l'affiche est sur le poteau au fond du temple, Chercher la faute, organisée dans le cadre du séminaire de l'association Bible et Psychanalyse. Vous avez sur l'affiche tous les renseignements, puisqu'il faut s'inscrire pour pouvoir assister à cette représentation de théâtre à partir donc des livres de Marie Balmary. Samedi 13, alors à 10h30, il y aura Ciel et Terre, le groupe théologie, philosophie de la paroisse. Alors, Ciel et Terre se réunira, alors cette fois c'est exceptionnel, même si nous l'avons beaucoup fait avant l'été, Ciel et Terre se réunira par Zoom. parce que nous n'avons pas de locaux dans lesquels nous réunir, donc c'est une formule que nous avons déjà largement testée avant l'été, mais exceptionnellement depuis la rentrée, ce sera un ciel et terre en Zoom. L'après-midi à 14h, ce sera le caté pour les jeunes de dernière année, des jeunes que je vais emmener au cimetière du Père Lachaise, et nous parlerons de vivre avec la mort. Et puis dimanche 14, eh bien ce sera bien sûr le culte à 10h30. Il y aura également école biblique à 10h30 dimanche prochain, suivi le culte vers midi de l'Assemblée générale de l'association culturelle, donc qui organise entre autres le ciné-club, et puis au deuxième étage du repas du CASP. Voilà, donc ce sera un dimanche bien rempli aussi. Sans oublier la collecte pour l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge. Merci aux bénévoles qui s'en chargent tous les dimanches, et merci à vous tous qui fournissez cette épicerie solidaire qui en a besoin, enfin surtout les personnes bénéficiaires. Et Isabelle pour la fête de l'amitié.
Bonjour. Voilà, la fête de l'amitié se prépare assez activement, et merci à tous. Les stands s'organisent. Il manque encore des personnes pour le stand des vêtements. Il y en a un peu, mais pas assez. Pour les livres, c'est bien, ça va bien. On aura besoin aussi de bénévoles pour nous aider pour les repas, pour l'organisation des repas, pour installer le temple et le ranger. Voilà, donc si jamais il y a des gens qui savent déjà ce qu'ils feront à la fin du mois, eh bien, il y a un papier où on peut s'inscrire pour le rangement et l'installation. Il y a également sur les tables du fond des formulaires, des flyers que vous pouvez envoyer à vos amis, parce que la fête de l'amitié, c'est vous, c'est nous tous, mais c'est aussi ce que vous pouvez faire venir. C'est une grande joie de préparer cette fête, et j'espère qu'on sera nombreux. Voilà. C'est le 26, 27 et 28 novembre.
Voilà, il y a eu des renseignements aussi envoyés par mail pour des inscriptions, pour les plats préparés, à commander à l'avance, etc. Donc si vous avez besoin d'autres renseignements, n'hésitez pas à vous adresser à Isabelle, puisqu'elle est là aujourd'hui. Et c'est une grande joie, puisque nous avons été privés de fête de l'amitié l'année dernière. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? D'autres nouvelles, d'autres annonces? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de vous dire que, voilà, aujourd'hui, c'est une première, puisque le culte a été intégralement enregistré et qu'il sera donc disponible en vidéo sur la chaîne YouTube du Foyer de l'âme, grâce à Thomas, que nous remercions beaucoup. Et donc, non seulement vous pouvez le revoir, mais vous pouvez aussi inviter d'autres personnes à le regarder. Et nous envoyons nos fraternelles pensées aux personnes qui le regarderont peut-être de plus loin ou de très loin. Donc, grâce à Thomas qui s'est occupé de la commande, qui s'occupe de la gestion du matériel, eh bien, nous pouvons ainsi élargir la diffusion des cultes, élargir la portée de ce que nous vivons, de ce qui nous tient à cœur, de ce qui nous tient le cœur battant ici au Foyer de l'âme, bien au-delà de ces murs et de Paris. Donc merci à Thomas de l'avoir rendu possible. Alors, s'il n'y a plus d'annonce, cette fois c'est le moment de l'offrande, pendant laquelle je vous invite à chanter, ce qui me permet de dire une dernière annonce que j'avais oubliée. Pendant l'offrande, nous allons chanter le cantique 248. Et nous allons chanter le cantique 248 parce que c'est le cantique associé à la cantate qui sera jouée ici cet après-midi. Cet après-midi, il y aura un culte à cantate à 15h30. Le culte cantate, c'est un culte bref, un accueil, une louange, la première partie de la cantate, lecture biblique et méditation, la deuxième partie de la cantate, intercession et bénédiction, avec deux grandes pièces d'orgue au début et à la fin. C'est une formule, une expérience que nous avons déjà commencé avant l'été et que nous poursuivons ce mois-ci et le mois de décembre, et puis que j'espère qu'il pourra se continuer, mais cela dépend aussi des musiciens, cela dépend des personnes qui viennent. Donc il y aura à 15h30 ce culte cantate et à 17h30 la cantate en tant que concert. Voilà, qui est aussi une entrée libre, mais soumise à passe sanitaire, comme toute manifestation culturelle. Le culte, lui, comme tout culte, il suffit d'être masqué. Voilà, donc le cantique 248 est associé à cette cantate BWV 198, 12, pardon, qui est une cantate écrite pour un dimanche de la Réformation. Et le mois prochain, début décembre, ce sera une cantate du temps de l'Avent, puisque ce sera le premier dimanche de l'Avent. Donc je vous invite à vous lever et à chanter le 248, « Ne te désole pas, Sion ». Je vous invite à vous asseoir. Nous nous rassemblons dans la prière d'intercession. Notre Dieu, notre Père, nous te louons pour ces dons généreux, abondants, inconditionnels. Celui de ta grâce, celui du Christ, celui de l'Esprit. Celui de ta parole, en laquelle nous nous reposons. Mais avec tout cela, nous voulons aussi te demander le courage. Le courage de nous lancer dans la foi. Le courage de nous lancer dans le monde, au service des hommes et des femmes au service de nos frères et sœurs. Le courage de nous lancer dans la vie vivante, dans la confiance que tu t'y tiens avec nous, au plus près de nous. Oui, en Christ, nous te demandons le courage d'ouvrir les yeux pour voir les petites existences sacrifiées et pour ne pas nous en accommoder. Nous te demandons le courage d'ouvrir les yeux pour voir là où règne l'oppression, l'injustice, le marchandage, et à les dire, même de notre faible voix, à les dire qu'il est un autre monde possible, une autre vie possible. Nous te confions aussi dans la prière celles et ceux que nous connaissons qui traversent un temps d'épreuve, un temps de douleur, un temps de désarroi. Et nous te confions aussi celles et ceux qui reprennent pied, reprennent goût à leur existence. Et nous voulons nous tenir auprès des uns et des autres, comme des témoins sûrs, fidèles, des témoins de ta parole de vie, de paix et de joie. Alors nous poursuivons notre prière par celle que Jésus le Christ a enseignée à ses disciples en disant à haute voix ou dans le cœur: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation et puis nous chanterons le dernier spontané avant la bénédiction. Et pour cette exhortation, je vous invite à entendre la strophe d'un cantique que j'ai trouvé dans un autre recueil que le nôtre, le recueil Alléluia, le cantique qui s'appelle « Ô mon peuple, prends courage », c'est sur la mélodie du psaume 42. Et une des strophes dit ceci: « Ce n'est pas un sacrifice que demande le Seigneur, mais l'amour et la justice dans l'humilité du cœur. Aujourd'hui, voici qu'il vient, il rassemblera les siens pour qu'ils marchent dans ses voies, pour qu'ils vivent dans sa joie. » Nous chantons. Amis, frères et sœurs, que l'amour de Dieu accompagne chacun de vos pas. Que la paix de Dieu soutienne chaque étape de votre route. Que la joie de Dieu borde votre chemin. Dieu vous bénit et vous garde en son amour. Amen.